Donc la semaine dernière, Patrick nous avait parlé de ce texte de chapitre l'Apocalypse, chapitre 8 et 9. Et donc ça parlait de la prière, hein, de la prière des saints, vous vous souvenez? Je vais juste relire le passage, la vision qu'il a du... Bernard nous en a parlé tout à l'heure de l'autel des parfums. Donc, à l'ouverture du septième sceau, c'est l'agneau de Dieu qui ouvre les sceaux, c'est le lion de Juda, c'est notre Seigneur. Et il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tenaient devant Dieu, et sept trompettes leur furent données, et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. Et on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu. La fumée du parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, le jeta sur la terre et eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Les prières des enfants de Dieu comptent. Elle compte dans le ciel. Et c'est un petit peu l'image forte qui ressort là de ce passage et de tout ce qui suit. Dieu entend les prières de ses enfants. Alors, faire des progrès dans notre vie de prière? Alors, ce sera pas une... message comme d'habitude, peut-être vous faites ça aussi, quand il y a des calendriers à effeuiller, qu'on effeuille, quand il y a des textes et des méditations qui me marquent, qui me touchent, je les mets de côté. Et puis là, du coup, j'en ai toute une collection cette année. Et donc, il y en a qui ont attrait à la prière et je voudrais... vous les présenter. Peut-être vous les reconnaîtrez au passage. Ce sera mieux. Les papiers. Voilà. Alors, le premier... Alors, il y en aura quatre, plus un témoignage, une illustration à la fin. Le premier, notre temps est très convoité, la première méditation. Le temps qu'on a pour passer avec le Seigneur, pour passer dans la prière, est un temps qui nous est disputé. Et l'humilité est bienvenue quand on s'approche dans la prière. Le Seigneur règne à sa façon, il répond à nos prières de la façon dont il le trouve bon, même si c'est des fois on peut sembler que on est déstabilisé par la façon dont il agit. Ne pas se décourager dans l'intercession et avoir la certitude que Dieu est attentif à nos prières, même si on ressent rien, même si on ressent rien. Alors la première des méditations, le titre, c'est « Trop occupé ». Et vous pouvez retrouver Exode, chapitre 5, versets 1 à 9, si vous voulez suivre. Exode, chapitre 5, versets 1 à 9, c'est quand les enfants d'Israël sont en Égypte, ils sont esclaves, vous savez, et Dieu convoque son peuple pour qu'il l'adore. Il voudrait que son peuple l'adore dans le désert. Mais voilà, le peuple ne peut pas sortir parce que Pharaon est là et il n'a pas du tout envie que les enfants d'Israël marquent une pause de quelques jours dans leurs travaux. Il les veut entièrement à son service. Exode chapitre 5. Moïse et Aaron se rendirent auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse-moi aller, laisse aller mon peuple pour qu'il... célèbre au désert une fête à mon honneur. » Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël ? Je ne connais point l'intérêt, je ne laisserai pas aller Israël. » Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu, permet de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. » Pharaon dit, « Voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux ?» Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. « Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à ces paroles. » Accabler ces gens de travail, qu'il ait par là de quoi s'occuper et ne prenne plus garde à des faussetés, trop occupés. Ce qui déplaît au Pharaon, autant qu'à Satan, c'est que le peuple de Dieu prenne du temps pour aller adorer son Dieu. La stratégie employée, remplir son emploi du temps par un travail accablant, pour ne plus penser ni envisager de vivre autrement. Nous sommes souvent bien occupés et la voix du Seigneur, bien occupés et la voix du Seigneur qui nous dit stop n'est plus audible. Parfois ce n'est pas le travail séculier qui met un fardeau sur nous, mais les activités religieuses. Satan est malin pour nous occuper à ce que le Seigneur ne nous a jamais demandé dans sa parole. N'y a-t-il pas un moment où il nous faudra réaliser l'urgence de stopper l'activisme qui nous donne bonne conscience, qui nous met en valeur, pour prendre le temps qu'il faut avec celui qui nous a rachetés à un si grand prix? Ce que nous sommes lui importe plus que ce que nous faisons. Ce que nous sommes a plus d'importance que ce que nous faisons. Soyons-en convaincus. Le Seigneur veut que nous laissions là nos filets pour prendre du temps avec lui et l'écouter. Comme les disciples suivent notre Maître, nous laissant instruire par lui, méditant sa parole et le célébrant. Il ne sera pas nécessaire de faire 3 jours de marche dans le désert, mais nous devons peut-être nous faire violence et nous mettre à l'écart pour un tête-à-tête régénérant avec notre Seigneur. Jean-Michel Guerche. Trop occupé. Ah, il n'y a pas de pharaon. On n'a pas de pharaon qui nous donne des ordres, qui frappe avec des bâtons si on n'exécute pas notre tâche journalière. Mais il n'empêche qu'on a quand même une forme de pression sociale. Kevin DeYoung, c'est un auteur écrivain qui a beaucoup de problèmes avec la surcharge de travail. Et il dit ceci, la surcharge est comme le péché. Tuez-le ou il vous tuera. Il a remarqué que quand il travaille beaucoup, eh ben, il perd sa joie. S'il est surchargé de travail, sa joie s'en va. Et c'est un indice qui peut nous montrer que on en fait trop lorsque notre joie dans l'ouvrage a disparu. C'est qu'on en fait trop. On a tendance à remplir notre temps de choses pour pas avoir de temps vide. Parce que peut-être on redoute ces temps vides et pourtant c'est bien de laisser du temps vide pour les choses qui sont imprévues dans notre semaine. Il va y avoir des choses imprévues. Et si on a un emploi du temps qui est trop chargé, on n'arrivera pas à le faire et on va finir la semaine dans la frustration et la joie sera pas là. Donc, se laisser de la marge, nous dit-il, un bon conseil pour aujourd'hui, quand on n'est plus sur Pharaon. Le danger des siècles, le souci des richesses, vous savez, ces plantes, cette graine de semence, la troisième graine qui est tombée, dans la bonne terre, certes, dans la terre, mais il y avait beaucoup de plantes qui poussaient à côté, il y avait beaucoup d'autres végétations qui étouffaient et empêchaient de pousser. Et le Seigneur a parlé des soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises. Bien sûr, nous, en tant que chrétiens, on regarde ça avec prudence. Mais bien souvent, on s'encombre nos vies de plein d'à-côtés parce qu'il y a de la pression sociale qui est là et il faut avoir une voiture correcte et il faut avoir une maison. Et quand on a la maison, il faut l'entretenir. Et quand il faut l'entretenir, après il y a le jardin, il faut arranger le jardin. Et il y a toutes sortes de choses qui s'ajoutent les unes aux autres. Et puis la voiture tombe en panne, il va falloir la réparer. Et tout ça nous accapare et nous prend beaucoup de temps. Et puis il y a tous les gadgets de toutes sortes avec lesquels on s'encombre. Il y a le téléphone, il y a ceci, il y a cela. Quand je vois le temps que je passe à effacer, rien qu'à effacer les emails dans mes boîtes à lettres, je dis pff, que de temps gâché, que de temps perdu, toutes ces choses qu'on met pour remplir notre vie, mais qui en fait deviennent embarrassantes et deviennent étouffants et nous empêchent de trouver ce temps avec le Seigneur. Voilà, que ce soit pas l'arbre qui cache la forêt non plus, hein, on peut avoir des problèmes. Alors on remplit tout notre temps, tout notre agenda pour pas avoir de temps, pour pas avoir un moment seul à penser, de se poser et d'écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Et vous le savez, des fois il intervient dans nos vies par une façon ou par une autre où il nous dit stop maintenant, écoute-moi. Trop occupé, c'est la première méditation. La deuxième méditation qui est ainsi nommée lundi 25 avril. Pourquoi avoir fait d'Adam un jardinier? L'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et la lecture recommandée est celle du livre des Actes, au chapitre 21, versets 1 à 5. Donc c'est Luc qui rapporte donc les voyages de Paul, le dernier voyage de Paul en chemin vers Jérusalem. Enfin, il savait que c'était son dernier voyage et le Seigneur l'avait prévenu. Donc ils sont à Éphèse, juste avant acte 21, donc il avait prié à genoux. Il avait prié à genoux avec les anciens d'Éphèse. Et nous nous embarquâmes, chapitre acte 21, verset 1, nous nous embarquâmes après, nous être séparés d'eux, et nous allâmes directement à Kos, le lendemain à Rhodes, de là à Patara, et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous les laissâmes à gauche pour suivre notre route. Du côté de la Syrie, nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Donc, il y a quelques jours à passer là. Nous trouvâmes des disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous sommes arrivés au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir vers le navire et tous nos compagnons avec leurs femmes, avec leurs enfants, jusqu'à l'extérieur de la ville, nous accompagnèrent. Et il écrit, nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Ils se sont mis à genoux tous, les compagnons de Paul et ses compagnons, les frères et sœurs qui étaient là, Les enfants, les familles entières, ils se sont mis tous à genoux et ils ont prié. Et ils ont prié. Voici la méditation Rudyard Kipling dit, dit-on demanda, pourquoi Dieu a fait-il l'homme jardinier? Et il répondit, parce qu'il savait qu'au jardin, la moitié du travail se fait à genoux. La moitié du travail se fait à genoux. L'avons-nous compris? On peut bien sûr prier dans n'importe quelle position, mais le Seigneur priait à genoux. Et ceux qui le suppliaient s'agenouillaient aussi. La lecture proposée rapporte que Paul et ceux qui quittaient se sont agenouillés sur le rivage pour prier. Dans ma jeunesse, dans notre église, les réunions de prière se faisaient aussi à genoux. S'agenouiller est d'abord un signe d'humiliation. On propose toutes sortes d'engins pour jardiner sans trop se baisser, mais il reste qu'on ne peut pas jardiner sans se baisser jusqu'à terre. On ne peut pas davantage s'approcher du Créateur sans une démarche d'humiliation, sinon aucun espoir d'être élevé. Je veux retirer l'image de Kipling, faire la moitié du travail à genoux. Nulle tâche accomplie pour Dieu ne peut porter du fruit si la moitié n'en est pas faite en prière. Pourquoi dire la moitié? La prière doit être concomitante, c'est-à-dire avancée avec, de toutes nos démarches. Rien ne l'empêche précisément parce qu'elle est plus attitude intérieure que geste, que phrase. La prière est une attitude intérieure. Ce n'est pas que des mots, ce n'est pas que des gestes. Ne faisons rien sans que ce soit avec prière. Avant, pendant, après, l'entreprendre autrement serait orgueil et déraison. Richard Doulière. Une humble prière qui nous accompagne dans toutes nos activités. Les activités sont simples. Et les accompagner de prière avant, pendant et après nous encourage ce frère. L'humilité est de mise. L'humilité est de mise. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce passage se retrouve à trois reprises dans nos Bibles. Dans le Proverbe 3-4, Jacques 4-6, 1 Pierre 5-5. Trois fois c'est répété, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous approcher humblement du Seigneur quand on va à lui pour prier et le faire dans toutes nos activités. La troisième méditation, Jésus notre roi paradoxal, Jésus notre roi paradoxal. Et là, c'est dans l'évangile de Jean qu'on va aller lire un petit passage qui accompagne cette méditation. Jean chapitre 12, versets 12 à 28, c'est juste après la résurrection de Lazare. Jésus est en route pour Jérusalem et il arrive à Jérusalem. Jean chapitre 12, verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui. En criant, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un anneau, il s'assit dessus selon ce qui est écrit, ne crains pas, fille de Sion, Jérusalem. Voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse, petite âne. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, il se souvint qu'elles étaient écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. Tout ce qui était avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendait témoignage. La foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez, vous n'y gagnez rien, voici le monde est allé après lui. » Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec insistance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Mais glorifié comment ? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vient du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse. L'accueil de la foule semble calculé pour mettre la pression sur Jésus. On tente de prendre en main et de le canaliser dans la bonne direction. Celui que beaucoup considèrent comme candidat possible au rôle de libérateur. On l'acclame, on le pousse sur le devant de la scène et on espère le voir se transformer en conquérant. Ces gens invitent Jésus à entrer dans leur rêve, à se conformer à leur idée du Messie. Notre véritable épanouissement dans la vie chrétienne ne se réalise que quand nous laissons Jésus régner à sa manière. Pour ce faire, nous devons nous imprégner de cette vision de Jésus monté sur un ânon. Jésus, le roi, sur un ânon. Même quand il ne nous donne pas ce que nous désirons tant, il n'agit pas comme un despote, orgueilleux, piétinant nos espoirs sous les sabots de son cheval. Il ne se laisse pas manipuler, mais il agit comme le roi de paix et humble Seigneur. Faire confiance en Jésus, c'est croire qu'il est notre roi de paix, qui nous accorde ce qui contribue à notre vraie paix et nous refuse ce qui ferait nous plonger dans le trouble et le malheur. Le moins qu'on puisse dire est que nos rêves personnels ne sont pas toujours conformes à notre intérêt véritable. Que de tourments inutiles nous nous infligeons quand au lieu de lui faire confiance, nous insistons pour qu'il se plie à nos désirs. Alors, c'est vrai que dans nos prières, on a des fois tendance à donner la solution à Dieu. L'image que nous donne la Bible dans l'intercession, c'est plutôt un plaidoyer, et n'est pas de dire au Seigneur ce qu'il doit faire. Et le Seigneur est déroutant. C'est un roi qui est sur un ânon, dit notre frère. C'est Bob Souza qui a écrit cette méditation. Jésus a dit, vous savez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et il ajoute, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. À la fois, avoir un joug sur les épaules, c'est-à-dire d'être dirigé, d'être canalisé, nous, et à la fois savoir que c'est quelque chose qui est très bon et très doux pour nous. Et on a le témoignage de Paul dans les Écritures, vous le savez, quand il a dit cette phrase, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Un roi paradoxal. Dernière méditation et quatrième. Un des fruits de l'amour, c'est l'intercession. Et là, la lecture que je... Le verset, c'est « Ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » C'est Jean chapitre 7. Et je voudrais juste voir le... Lire, c'est quelques pages avant, pour lire le contexte. On est dans Jean chapitre 6, avant, vous savez, la multiplication des pains. Et Jésus qui dit, si vous me cherchez parce que, c'est pas parce que vous avez vu un miracle, c'est parce que vous avez bien mangé. Et il leur dit qu'il est le pain de vie, en fait, lui. Et ça déroute beaucoup de personnes. Qu'il soit lui-même une nourriture, la vraie nourriture qui vient de Dieu. Et au chapitre 7, donc, après cela, Jésus parcourut la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête du tabernacle était proche. Ses frères lui dirent, pars d'ici, va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Ils étaient parfaitement au courant de ce que faisait Jésus et de ce qu'il enseignait. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Y a-t-il plus décevant pour un prédicateur, ou pour quelqu'un qui n'est pas forcément prédicateur non plus, c'est pour nous tous que ça s'adresse, que de n'être pas convaincant auprès de ses proches. Pourtant, plus d'un pleure dans les supplications à Dieu pour un fils, une fille, qui ne suit pas la voie droite et semble insensible aux appels du Seigneur. Et quand les années passent sans réponse divine apparente, quelle souffrance! Satan ne rate pas l'occasion d'accuser. Qui pourrait ne rien trouver à se reprocher? Or, le Seigneur lui-même, malgré l'exemple de sa vie à la maison, n'avait convaincu aucun de ses quatre frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude. On ne sait rien de ses sœurs. Il y avait de quoi s'étonner, comme il avait fait de l'incrédulité des gens de son village. Quand il priait à l'écart, nul doute qu'il portait, pourtant qu'il portait chacun d'eux devant Dieu. Attendre, espérer, prier. La patience de Dieu n'est pas sa limite, mais elle est longue, longue. Sa résurrection convainquit finalement Jacques et Jude. Chacun a signé une lettre de la Bible. Tous les frères de Jésus, avec leurs mères, les apôtres et les femmes, persévéraient dans la prière après l'ascension. Tout permet de penser que ses sœurs étaient du nombre. Ne nous décourageons donc pas pour ceux des nôtres qui tardent à comprendre. Persévérons dans la prière et les larmes. Dieu entend nos supplications et voit nos larmes. Richard Doulière. Ne pas se décourager face aux apparences. Une autre difficulté qu'on peut avoir, c'est de sentir que, de se dire qu'on prie pour rien, ou que Dieu n'est pas là, ou que Dieu n'entend pas, avoir l'impression de lui parler et de parler comme dans un désert, de se sentir seul. Je voudrais compléter ces méditations par un témoignage rempli d'humour d'un frère qui a vécu une expérience qui la raconte avec beaucoup d'humour par rapport à ce problème de est-ce que Dieu est vraiment là quand je prie. Est-ce que Dieu vraiment m'entend? Est-ce qu'il m'écoute? Pourtant, il a dit, l'évangile de Matthieu, le dernier verset, vous savez, de l'évangile de Matthieu, « Voici, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. »
Voilà, j'étais chez moi, en train de dessiner, et je me dis, là, ça ne va plus. Il faut que j'aille parler à Dieu, là, parce que là, il faut que je sorte. Alors, je sors de chez moi, et j'adore aller dans la nature. Ah, c'est beau, là, c'est calme, c'est reposant, là. Et puis, je parle à Dieu en même temps que je marche. Mais là, je dis, écoute, Seigneur, je te dis franchement les choses, hein. Je suis en train de te parler, mais j'ai vraiment l'impression de parler tout seul. Non, parce que je ne te sens pas, je te sens pas avec moi, hein. Mais Jésus a dit dans la Bible, crois en moi et tu seras sauvé. Il n'a pas dit, sens des trucs, hein, tu sens, hein, et tu seras sauvé. Non, c'est pas ça. Puis je me suis dit, bon, ok, je lui parle, je crois simplement ce qui est écrit, voilà. Et je lui dis, ben, je vais te dire, le problème, c'est que moi, avec mes bandes dessinées, j'essaye de percer dans les magasins, j'essaye d'aller dans les éditeurs, j'essaye d'aller à plein d'endroits, mais tout le temps me dit non. On me dit non, monsieur, non, non, non. Je dis mur devant moi. Seigneur, vraiment, j'aurais donne-moi un char là, comme ça, avec un chasse-neige. Un chasse-neige, c'est le char, c'est la neige, hein, parce que voilà, en Suisse, on a de la neige. Bon, un chasse-neige et qu'on casse les murs, on casse tous ces non, vraiment. Et puis, bon, de loin, on aurait pu penser que j'étais attaqué par un essaim d'abeilles, parce que je. Allez, comment ? Ensemble. Bref, je rentre chez moi, et puis chez moi, j'avais accueilli un gaillard, un gars, allez, je ne veux pas dire son nom, mais il s'appelle Pomme de Terre Moyennes Rushpi. Voilà, on va dire que c'est ça. Le gars, il est à l'église, là, puis je le vois, puis j'ai vu Dieu dans son regard. Il est passé à l'église. Je lui dis, t'es qui, toi ? Il dit, ben moi, je travaille dans une ferme, là. Et les gens sont pas gentils avec moi, je suis mal accueilli. Je dis, ben, viens habiter chez moi. Là. Ma femme est d'accord, ok. Il est resté 2 semaines chez nous. Bon, ce qui fait que lui, quand il prie, il ne va pas marcher, mais il va dans son fauteuil. Puis il se pose comme ça, puis il parle avec Dieu pendant des heures. C'est assez impressionnant parce qu'il est un peu imposant comme gars, puis il a une barbe. Puis il prie. Et moi, en arrivant chez moi, j'ai ouvert la porte. Et je ne vous montre pas la vérité. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai senti la présence de Dieu. Mais une... Comme si je pouvais la toucher. T'as fait vouf, comme ça. Oh ! Et j'ai senti Dieu là, puis je vois la pomme de terre, mon ami. Il est là. Il me regarde par l'autre vertu de la porte, là, puis il me regarde comme ça. Puis il me dit, Alain ! Alain ! J'ai tout mon nom. C'est, j'étais en train de prier et je t'ai vu en vision, je t'ai vu sur un char avec un chasse-neige et tu cassais les murs. Moi j'ai dit, mais Dieu, mais il a reçu un fax ou quoi, hein? Je me suis dit, c'est pas possible, Seigneur, si je te dis des trucs, tu vas pas les dire à tout le monde là, mais... Bon, enfin bref, ce qu'il y a, c'est que c'est extraordinaire. Parce que c'est comme si Dieu me disait, t'avais l'impression que j'étais pas là, mais j'y étais là. Et vous, si vous avez une fois cette impression, si ça vous arrive, pensez une chose, il vous entend, il vous écoute. C'est la réalité. J'ai testé pour vous.
Oui, Seigneur, merci pour ce frère, pour leur expérience dans la prière, dans la vie de prière. Merci pour leur partage et leur encouragement. Merci de nous aider à pousser dans nos vies tout ce qui prend trop de place et qui prend ta place. Merci de nous aider à venir avec toi dans l'humilité, humblement, de venir à toi humblement pour te prier, de le faire de façon persévérante, de laisser le contrôle des réponses que tu veux donner, de la façon dont tu veux nous conduire, et si c'est pas comme nous on avait prévu, Seigneur, que ta volonté soit faite également, Seigneur. Merci de nous encourager à persévérer, même si on ne voit pas des choses, même si on ne sent pas, même si les choses ne semblent pas bouger, à persévérer dans la prière, sachant que tu es un Dieu rempli de patience. Amen. Amen.